Oui, bonjour Daniel, c'est Pierre à Caen. Nous occupons du collectif d'aide et de soutien aux footballeurs de l'équipe de France qui ont perdu face à la Grèce. Nous organisons une marche silencieuse pour les footballeurs, leurs épouses, compagnes ou compagnons peut-être, ou leurs enfants, car ça va être très difficile pour eux. Ils vont être bousculés médiatiquement, ils vont être aussi bousculés par leur coach, par les staffs d'entraîneurs et par les instances sportives. Et on n'est pas sûr qu'ils puissent passer un bon été. Vont-ils pouvoir entretenir leur berline allemande, anglo-saxonne ou autre 4x4? Que va-t-il advenir de leurs épouses qui ne pourront plus faire chauffer la carte bleue? Est-ce qu'ils pourront être reçus également dans les restaurants, les endroits de la jet set? C'est terrible. Et dire que pendant ce temps-là, dans les médias, on nous parle des gens qui crèvent, exécutés, tués ou de la misère, ou des gens qui ont été saisis ou expulsés. C'est une honte, alors que pendant ce temps-là, nos footballeurs français vont être la cible de détracteurs et d'ennemis, autant d'aigris, d'amers, de gens haineux et envieux. Et puis, puisque je suis très croyante New Look quand même, pourrais-tu demander aux autorités ecclésiastiques d'organiser un Tédéum à Notre-Dame de Paris pour les joueurs d'équipe de France de football, peut-être même une procession où je viendrai ventre à terre ou à genoux pour demander la mansuétude du Seigneur et nous explique pourquoi ils ont perdu. Merci Daniel, au revoir.
Non, c'est pas l'équipe de France qui vient de gagner, c'est que je viens d'apprendre que la région Nord-Pas-de-Calais se déclare zone hors AGCS, ouais!
Allô Daniel, les boules, on est en tournée et on peut pas être avec nos camarades intermittents. Ben oui, ils occupent depuis vendredi 16h30 le toit du Médène. C'est super ce qu'ils ont réussi à faire. Mais il faut que ce soit relayé. On compte sur toi Daniel. On se battra jusqu'à l'abrogation du protocole du 26 juin 2003. Et salutations aux camarades de l'EDS. Si nos potes y sont virés, il y aura à nouveau de la place sur le toit. Il paraît que la vue est superbe de là-haut. Et si on s'y mettait tous ensemble, on n'aurait pas besoin d'attendre qu'ils nous aient tout cassé d'ici 2007. Salut, c'était Jolimum.
Salut Daniel Mermet, salut aussi à toutes les oreilles attentives. Ben voilà, c'est Pierre, intermittent, en colère. Et on occupe actuellement le toit du MEDEF. On se dit que c'est une des origines de nos maux, si je peux dire. Alors c'est comme ça qu'on essaye de les régler, en luttant inexorablement et en cherchant à découvrir le secret de la convergence et savoir comment nous tous, on pourrait enfin se réapproprier nos vies et nos enjeux sociaux. Voilà. Donc nous, on est toujours dans une lutte pour de nouveaux droits collectifs et bien pour tous. Et on pense que ce chemin passe notamment par l'abrogation, l'expertise, ainsi que l'ouverture de négociations. J'entends l'expertise de l'ensemble des données uniques pour un peu faire le ménage dans le paritarisme. Voilà, c'était en direct du toit du MEDEF, le soleil d'été. Salut Daniel.
Salut, c'était Thierry de Toulon. Eh bien, je voulais simplement vous remercier pour cette superbe semaine que vous nous avez proposée en Italie. Voilà, bah, qu'il y en ait encore beaucoup d'autres. Merci. Ciao.
Oui, mais c'est pas tout le monde qui nous remercie hein, pour la semaine en Italie sur ces années noires et ces années rouges, ces années de plomb, ces années 70 en Italie. C'est pas tout le monde qui nous dit que c'est bien. Il y en a qui sont pas contents du tout. Il y en a qui pensent que c'est des années dont il ne faut plus jamais parler. Il y en a qui pensent que nous avons trop de complaisance vis-à-vis de ces années, de ces terroristes épouvantables. D'autres, au contraire, nous approuvent et puis beaucoup découvrent surtout. Je crois que beaucoup découvrent. Est-ce que sur ces années, après tout, c'est un peu normal. Le temps passe. C'était il y a 25 ans. C'était il y a 35 ans, puisque ça a duré 10 ans. Et que, effectivement, la page a été rapidement tournée. Il faut dire que depuis, le monde a changé, même si, dans le souterrain des choses, ces années continuent, de travailler en profondeur et, nos voisins transalpins et au fond notre monde en général. On l'a vu récemment avec l'affaire Battisti, et c'est après-demain le 30 que la justice française va se prononcer quant à l'extradition de Battisti. Voilà pourquoi aujourd'hui nous continuons cette enquête sur ces années noires et rouges en Italie, et là on en est à l'épisode de l'après Moro, l'après exécution d'Aldo Moro, l'après 78 auparavant. D'autres messages sur le répondeur de l'Alba Sigissu au 01 56 40 37 37.
Bonjour, nous venons d'entendre à la radio que monsieur Desmarais, PDG de Total, venait de recevoir la Légion d'honneur. Donc nous nous réjouissons pour lui. Alors, avis à la population, si vous voulez la Légion d'honneur, vous affrétez un pétrolier pourri, vous polluez des centaines de kilomètres de côte, et voyez, ça marche bien. Et puis Total aussi, on sait que ils sont bien copains avec le régime de Birmanie, ils ont bien aidé à faire construire un gazoduc avec les prisonniers politiques birmans. Donc ça aussi, ça marche bien pour la Légion d'honneur. Alors il y a plein d'idées comme ça, hein, la pollution, la dictature, ça marche bien, c'est des valeurs sûres. Allons-y tous.
Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques dizaines de gaillardes se crêpèrent un jour le chignon, à pied, à cheval, en voiture. Les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffeurs. Alors si toi, auditeur fidèle, tu crains aussi pour l'avenir, dis-toi que cette émission si belle, à la rentrée, va revenir. Pendant les vacances estivales, tu oublies ton bonnet phrygien, tu fréquentes les festivals, en rêvant d'y croiser Jospin. Tous les mercredis, la gala 20h, place Garibaldi, cinéma, Mercury, 2 heures de folie, ciao, viva, Brassens, fait l'entracte. Portez-vous bien, bel été, doucement sur les routes.
Qui est Radio Alice?
Salut, c'est Daniel Mermet avec Francesco Giorgini en Italie, année noire, année rouge, année 70.
Flight number 2.
Le seul coup d'État qui n'est pas ridicule est le coup d'État qui réussit. Les coups d'État qui ne réussissent pas, ils sont toujours ridicules.
Tutti bravi ragazzi.
Tutti bravi ragazzi.
Tutti bravi ragazzi.
C'était une situation fiévreuse dans l'Italie de ce moment-là. Et c'est ce petit degré qui fait détacher les icebergs, non? C'était tout l'iceberg qui commençait à se détacher parce qu'il y avait cette augmente de 1 degré de température dans les eaux.
Le poisson rouge dispose d'une mémoire qui lui permet d'oublier au bout de 3 secondes. Ainsi, il peut tourner en rond paisiblement dans son bocal. Les médias auraient-ils fait de nous des poissons rouges tournant en rond paisiblement dans notre bocal en forme d'univers ? Le pédophile, le génocide, la Coupe du Monde, la tempête, la retraite, la marée noire, la sécu, la grève, Battisti. Non. Battisti a été éliminé en moins de 3 secondes. On n'a pas attendu que le poisson rouge oublie. On l'a oublié, on l'a balancé. Un engouement, une émotion. On était presque à nouveau aux barricades et aux drapeaux rouges, selon la bonne vieille coutume. Et puis, soudain, non, de mauvaises nouvelles nous sont venues de l'autre côté des Alpes. Ouh là là, c'est un assassin. Alors aussitôt, en quelques heures, drapeau dans la poche, on siffle un petit air, rien ne s'est passé, oublions le Battisti. Or, on le voit bien, en cours de ces reportages, au cours de cette balade, cette enquête, balade aussi parfois, dans ces années dites de plomb en Italie, ces 10 années, Battisti n'était qu'un parmi les milliers, les dizaines de milliers de jeunes Italiens et de jeunes Italiennes qui ont cru à un moment qu'un autre monde, qu'une autre Italie était possible. Et pour ça, ils se sont battus. Et pour ça, ils ont été vaincus. Et comme vient de nous le dire Adriano Soffri, il n'y a des coups de coups d'État ridicules que ceux qui échouent, mais lorsque ça réussit, il n'y a que des héros, il n'y a que des martyrs, il n'y a plus que des statues en bronze dans les rues, des hymnes et des drapeaux. Là, ça a échoué. Et c'est pas si mal, au fond. C'est pas si mal parce que il y a sans doute beaucoup plus à apprendre de ces révolutions échouées et manquées que de celles qui ont réussi ou de celles qui ont été trahies. 1 degré de plus il y avait, nous dit Eri De Luca. 1 degré de plus, au lieu de 36, c'était 37 degrés dans cette Italie-là. Et c'est ce petit degré de plus qui fait que les icebergs se détachent. Mais est-ce que ça n'est pas aujourd'hui 1 degré de trop pour le poisson rouge qui tourne paisiblement dans son bocal? C'est possible. En tout cas, aujourd'hui, nous continuons dans cette Italie noire, rouge, celle des années 70 jusqu'à 18h sur France Inter.
Nous avons vécu une aventure qui avait des très belles et très généreuses promesses à son commencement, qui est devenue une espèce de délire, qui a coûté très cher aux autres, à nous, aux personnes que nous haïssions et aux personnes que nous aimions. Nous désirons d'en sortir définitivement, sans haïr les vieilles personnes et sans être forcés à choisir quels gens haïr et quels gens aimer. La vraie séquence d'attentats, d'assassinats, ça commence en 77-18 et culmine dans un épisode que vous connaissez très bien, qui est l'assassinat d'Aldo Moro, qui est un vrai clivage dans l'histoire, pas seulement politique, idéologique, italienne, mais dans la façon des Italiens de penser à soi-même.
Adriano Soffri.
L'Italie n'a jamais été la même, comme on dit, pour plusieurs dates, le 11 septembre, etc. Mais c'est vrai. Jusqu'à ce moment-là, les Italiens pensaient à soi-même comme dans la fausse illusion d'être italiano brava gente, des braves gens. C'était pas vrai, mais on pensait ça et on utilisait très généreusement la différence entre la cruauté jusqu'au boutiste des Allemands et l'arte di arrangiarsi, l'umanità et le calore umano des Italiens. À ce moment-là, tout ça s'est écroulé dans une sorte de désolation. Une espèce d'ivresse moleste, d'ivresse assassine. Assassiné d'une façon très féroce. Après 55 jours qu'on tenait dans sa propre chambre un homme qui était un homme très mite,
tendre,
complètement inerme,
sans défense.
Après ça, cette espèce de terrorisme est devenu d'une façon considérable un terrorisme cannibale. On tuait des gens en les transformant en ennemis avec une promotion de ces gens-là qui n'étaient pas des ennemis ou qui pouvaient être des ennemis personnels ou presque particuliers, privés des gens qui menaient la lutte armée. On tuait les camarades de la lutte armée pour s'assurer de l'imminence de sa propre crise morale, personnelle. On tuait les pentiti, nouveau mot scandaleux du nouveau italien de ces années, les repentis. On tuait les pentiti. On a eu à certains là vraiment des épisodes dont la cruauté et la gratuité rivalisent entre eux.
Il a le temps de réfléchir, l'homme qui nous parle, Adriano Soffri. Il est en prison pour de nombreuses années, et depuis pas mal d'années déjà, dans sa prison, à Pise, le prisonnier le plus encombrant, le plus gênant de l'Italie, et qui se fait entendre, et qui s'y connaît sur ces questions, puisqu'il fut le leader d'un des mouvements les plus célèbres de cette époque, Lotta Continua, au début des années 70, après l'attentat contre Piazza Fontana, cet attentat attribué à l'extrême droite. Ce mouvement, Lotta Continua, a fait comprendre que c'était l'État qui mettait les bombes, qu'il s'agissait d'une stratégie, celle de la tension, la stratégie de la tension qui visait à déstabiliser, à apeurer, afin de favoriser l'avènement d'un pouvoir fort et stable, comme certaines sociétés à quelques moments en rêve et dont l'Italie avait rêvé autrefois. Donc Adriano Soffri a beaucoup réfléchi à cette époque, lui et ses camarades, à la violence, au recours à la lutte armée. Quelle lutte armée? Faut-il s'armer? Oui, c'était une période très violente, extrêmement violente, que cette Italie des années 50 et des années 60, où, comme le disait Eri De Luca, on tirait dans les manifestations paysannes, ouvrières, on fusillait, disait Eri De Luca. Donc c'était une période très violente. Donc la question de la violence, de la riposte violente, se posait. Et pourtant, Lotta Continua se dissout en 1976. Et c'est à ce moment-là, presque un peu plus tard, qu'on passe vraiment à la séquence de la lutte armée, de l'offensive armée, et ce sera le choix de Lotta Continua. Des Brigades Rouges, pardon. Et Aldo Moro, donc, en 1978, 55 jours, cet homme sans défense, enfermé, prisonnier, est abattu par les Brigades Rouges. C'est une explosion, stupéfaction, stupeur en Italie, comme dans le monde. On l'a évoqué, ces jours et ces heures, vendredi. Et là, on va aller sur les conséquences, la suite et le bilan, au fond, de ces années de plomb en Italie. Conséquence avec Giorgio Galli, qui est professeur et un des politologues les plus écoutés en Italie, qui donne une analyse, la sienne, sur les suites et ce qu'a représenté l'exécution d'Aldo Moro pour l'histoire de l'Italie. À partir de ce moment-là, l'histoire bascule complètement. À partir du, c'est la fin des années de plomb.
Oui, certainement. La vicenda Moro chiude tutto un periodo, come era stato previsto anche nei dibattiti di cui ho parlato prima. L'omicidio di Moro giustificò una dura repressione non solo nei confronti delle Brigate Rosse, che vengono poi distrutte.
Tutto a fine. C'è la fin. des années 70, c'est la fin des mouvements de contestation, des mouvements de masse de contestation, c'est-à-dire que l'assassinat de Moro justifie la répression non seulement des brigades rouges qui seront démantelées en 2-3 ans, mais aussi la répression tout court de tout le mouvement contestataire qui durait depuis 10 ans. Et donc c'est quelque sorte la pierre tombale de ce mouvement et la légitimation à tout instrument de répression qui seront déployés en masse dans les années suivantes.
Et c'est la négation de toute cette énergie, de toute cette invention, de tout ce mouvement social de revendication, aussi bien sur le plan syndical que sur le plan des imaginations et des propositions de cette énergie politique extraordinaire que vous avez connue dans votre pays, par le coup de pistolet dans la tête de Moro.
C'est la fin.
Aboli. C'est pas seulement la fin, c'est ça gomme tout.
Oui. Et poi si ha l'immediata ripercussione politica è resa evidente.
Tout à fait, et cette débâcle du mouvement contestataire et ouvrier touchera aussi le Parti communiste, qui n'arrive plus à être une force de proposition, qui n'arrive plus à essayer de s'approcher du pouvoir à travers un compromis avec la démocratie chrétienne, qui donc va être exclu du giron de pouvoir pour les 15 années qui suivent. Et en quelque sorte, on peut dire qu'après l'assassinat de Moro, la politique italienne revient à la situation d'avant 68. C'est comme si l'assassinat de Moro remettait les pendules à l'avant 68, c'est-à-dire à une situation où la démocratie chrétienne est hégémonique et où elle joue de temps en temps au centre-gauche, de temps en temps au centre-droit, mais où la dynamique d'approche du pouvoir du Parti communiste est stoppée jusqu'à la prochaine crise institutionnelle et sociale italienne qui sera main propre, le scandale de main propre 12-13 ans après.
La porte de la prison d'Adriano Sofri, qui est très visité et qui reçoit beaucoup de monde et qui s'exprime du fond de sa prison, dont vraiment le pouvoir italien et la justice italienne voudraient bien le voir sortir, mais il est, on l'a dit et redit, mais il faut le redire encore, à lui tout seul, du fond de sa prison, une accusation vivante de la limite et des insuffisances de la justice italienne. Son analyse sur les suites et le bilan de ces années.
Alors l'Italie est sortie de cette période en se débarrassant totalement de cette période. Tu sais, il y avait des cortèges de femmes féministes à Rome, à la fin des années 70, au commencement des années 80, qui faisaient des cortèges le soir en disant « Nous voulons nous reprendre la nuit. »
« Nous voulons reprendre la nuit ?»
La nuit. Reprendre la vie, la nuit, la ville, la nuit de la ville. Pendant des années, on ne pouvait pas sortir de la... À Rome, tu sais, Rome, la Rome de Stendhal, on ne sortait pas la nuit... Alors, la compromission de ces années par effet de la dérive, comme se dit, terroristique, a été complète.
Mais on a jeté le bébé avec l'eau du bain.
Je pense que oui. Je pense que oui.
Et nous, on est dans le soutien à Battisti, t'as vu quoi, un espèce de vieux romantisme révolutionnaire français qui est revenu avec le petit homme qui se bat tout seul, tous ces clichés qui sont revenus dans son soutien.
C'est le visage de la France que j'aime le plus. Ce romantisme, j'espère qu'il va durer, je pense que non, mais je pense qu'il y a une cause plus importante qui est une idée encore plus stéréotype que les Français ont de l'Italie. Les Français ont cette bonne idée romantique de soi-même, de la France. Je ne sais pas, Michelet, Victor Hugo que tu as nommé, etc. Bellissimo. Mais ils ont une idée de l'Italie qui est tout à fait dépourvue de
réalité.
Oui, de réalité, de fondement. Mais le contexte n'était pas un contexte épique. Il s'agissait d'un contexte d'ivresse. Tu sais, la fin des années 70 était la chose que les Scandinaves, qui sont très experts de ça, très bon connaisseur, appelle le mal de tête de la, du matin après. L'Italie n'est pas sortie de son mal de tête du matin après.
30 ans de gueule de bois.
L'affaire Aldo Moro, eh bien, on est arrivé ce soir au point de non-retour, semble-t-il, avec la lettre écrite de la main même du leader de la démocratie chrétienne et adressée au journal romain Vita. Une lettre bouleversante qui semble être aussi un ultime appel d'Aldo Moro. Alors tout de suite, de Rome, notre envoyé spécial, Pascal Delannoy.
Cette lettre est la plus dramatique de toutes celles qu'a écrites jusqu'à présent Aldo Moro. Le président de la démocratie chrétienne est, on ne peut plus clair, il faut, dit-il, négocier, c'est une question de secondes, même pas de minutes. Aldo Moro qui dresse contre son parti un violent réquisitoire, il lui reproche d'éluder les problèmes politiques réels, reproche aussi très dur adressé à l'État, critiqué pour son inertie, son laxisme et son manque de sens historique. Aldo Moro qui au passage décoche quelques flèches en direction des communistes, une force écrit-il qui devra faire ses comptes avec tous ses problèmes. L'allusion venant de l'homme qui justement a le plus milité pour le rapprochement entre les deux grands partis italiens, l'allusion est claire quand on sait que dès le début, le parti communiste a rejeté toute idée de négociation. Et puis il y a ce passage étonnant où Monsieur Moro parle de ses funérailles. « Je demande, écrit-il, qu'à ses funérailles ne participe aucune autorité de l'État, ni homme de parti. Je demande seulement à être suivi par ceux qui m'ont vraiment aimé et sont dignes de m'accompagner par leurs prières et leur amour. »
Tu te souviens du moment où Aldo Moro a été abattu?
Si, infatti, è avvenuto cercando di rendere la cosa il meno sofferente possibile, ma un'uccisione non è un fatto che sia spiegabile nella sua cosa fuori da un aspetto drammatico, cioè non c'ha delle ricostruzioni cinematografiche che si possano fare.
Il n'y a pas de reconstruction cinématographique qu'on puisse faire, oui, je me rappelle. Et on a essayé de faire ça de la façon la moins cruelle et la moins souffrante possible. Mais il n'y a aucun autre aspect que le drame du fait de tuer quelqu'un.
Prospero Gallinari, il s'appelle, et il vous a expliqué vendredi, dans l'émission de vendredi, comment, effectivement, il assume la responsabilité avec les Brigades Rouges d'avoir abattu Aldo Moro. Aujourd'hui, sur la table de la cuisine, autour de laquelle nous nous trouvons, il y a un petit chien en peluche avec ses lunettes, on dirait un bon pépère, un bon retraité avec sa compagne toute souriante à côté. Et on dirait jamais que cet homme est un monstre froid. Et pourtant, il n'en est pas loin. Il a la monstruosité froide de l'État, puisque les Brigades Rouges voulaient attaquer le cœur de l'État. Pousser l'attaque au cœur de l'État. Mais c'était à supposer que les États, un État ait un cœur. C'est peut-être ça, là, que repose l'erreur des Brigades Rouges. En tout cas, voilà la logique d'un homme qui n'a pas beaucoup changé, en dépit d'années et d'années de prison, à la différence, me faisait remarquer quelqu'un, de Cesare Battisti, qui lui a complètement changé, renoncé évidemment à tous ses raisonnements, ses rhétoriques. Et c'est ce langage de la violence. Prospero Gallinari, était-il fier? Étais-tu fier, Prospero Gallinari, du rôle qui était alors le tien?
Toi, tu étais fier d'avoir été choisi pour tenir ce rôle?
Non, assolutamente, niente di questo. Io, facendo parte dell'organizzazione, svolgevo i ruoli che, in base a mille condizioni, era giusto che facessi, come qualsiasi altro militante faceva.
Pas du tout, c'était une distribution des rôles selon les opportunités, selon les compétences, mais je faisais donc le travail qui m'était assigné par l'organisation et que comme chaque autre militant de l'organisation.
Enfin, quand même, quand tu as reçu l'ordre d'abattre Aldo Moro, c'est pas rien comme ordre, ça.
Non è un ordine, ma una decisione presa dall'organizzazione, certamente drammatica, con tutto il suo peso. È chiaro che quando ci si trova in quelle condizioni, quando si fanno quelle scelte, l'aspetto politico e l'aspetto umano o si riesce a separarli, o si ha la forza di riuscire a separarli, o non si fa qualcos'altro.
Non c'était pas un ordre, c'était une décision prise par l'organisation. Et évidemment, c'était pas une décision anecdotique, c'était une décision dramatique. Néanmoins, c'était une décision politique, et si on n'arrive pas à séparer le politique, l'aspect politique et l'aspect humain dans ces conditions-là, alors autant faire autre chose.
Il t'est arrivé de rencontrer les enfants de Moreau par la suite ?
Non.
Non.
C'est quelque chose que tu aurais souhaité, qu'il pourrait faire ?
Non vedo che cosa possiamo dirci. Loro hanno vissuto le loro sofferenze, il loro dramma. Io ho vissuto la mia condizione, le mie scelte. Siamo su due percorsi che sono stati solo di un grande dramma.
Je vois pas qu'est-ce qu'on peut vraiment se dire. Eux, ils ont vécu leur tragédie et moi, j'ai vécu les conséquences de mes choix. On est sur deux parcours qui ont en commun qui est un énorme drame.
13 mai, à Rome, des milliers de personnes recueillies défilent à l'endroit même où le corps d'Aldo Moro a été retrouvé.
I democratici cristiani portano i Pia Gaetani il loro estremo saluto al presidente Aldo Moro.
Après l'affaire Moro, tu as été arrêté en 79.
Dopo il sequestro Moro, sì, sono nell'organizzazione, la pratica dell'organizzazione si sviluppa, ci sono ancora parecchie azioni, interventi che si incentrano sempre bene o male su questi filoni.
Il y a eu donc après l'enlèvement d'Aldo Moro différentes actions à lesquelles je participe, notamment une action à Piazza della Nicosia a Rome contro il siège central della Democrazia Cristiana.
Marginalmente, nel senso che avevo abbastanza ciccia che teneva Piazza Nicosia.
Donc je participe, je suis blessé. Mais heureusement, j'avais assez de chair pour que la blessure ne soit pas trop dangereuse. Et je continue donc des actions jusqu'au 24 septembre 1979, quand je suis blessé et donc arrêté au cours d'une fusillade.
Tu as été jugé ?
Sono giudicato, condannato.
Condamné à toi, quoi ?
3 ergastoli et 108 anni di carcere.
3 perpétuités et plus de 100 ans d'emprisonnement.
Che poi ovviamente hanno riunificato, che vuol dire un ergastolo.
Ils ont tout réuni.
Non riescono a fare.
Et finalement, ça résulte qu'une perpétuité, parce que de toute façon, j'ai qu'une vie, alors on ne peut pas donner plus qu'une perpétuité.
Combien tu as fait d'années de prison?
Sono stato in carcere 17, 18, avevano fatti 3 prima, poi arrestato nel 79, sono qua in casa mia per ragioni, sono uscito 5-6 anni fa.
Je suis donc rentré à 79 et je suis sorti, si on peut dire sorti, parce que je suis encore incarcéré chez moi, mais je suis incarcéré, je suis sorti il y a 5 ans. Donc 1999,
20 ans
quasi. Plus les 3 ans que j'avais déjà fait, donc en tout j'ai passé à peu près 23 ans en prison et là je suis libre pour ainsi dire, c'est-à-dire que je suis incarcéré dans mon domicile.
Io adesso sono in detenzione, no, sono detenuto, cioè può venire qua in qualsiasi momento, sono in detenzione domiciliare, può venire qua in qualsiasi momento la polizia a controllare che io sia in casa.
J'ai eu pendant 2-3 ans la suspension de peine, mais là maintenant je suis en détention domiciliaire, donc la police peut venir n'importe quoi vérifier que je suis là, et si je ne suis pas là, je rentre en prison tout de suite.
Si c'était à refaire, tu referais tout?
Sì, è la mia storia, è la mia vita. Non si può pensare dopo, lì ho sbagliato, correggo quello, oppure là, sì, come principio, come regola, come sì, se dovessi ricominciare rifarei tutto. Risbagliando tutto quello che ho sbagliato, non ci posso fare niente.
Sì, sì, oui, sì, si j'avais recommencé, je referais tout. C'est comme ça, c'est ma vie, je ne peux pas la changer, je ne voudrais pas la changer, et je referais tout, et avec tous mes erreurs, et je referais tous mes erreurs.
Tu assumes tout?
Certo.
Tout à fait.
Une affaire de joueurs, finalement. Oui, oui, l'histoire c'est jouer aux hommes, disait Napoléon, et dans les années 70, l'histoire en Italie a joué aux hommes, avec des petits joueurs et des grands joueurs derrière, comme sur les photos que l'histoire retient. Les petits font le boulot, le sale boulot, bien souvent, et les grands derrière sont cachés derrière le rideau. En l'occurrence, là, c'était le rideau de fer, par exemple. Et puis, bah oui, c'était la guerre froide, que voulez-vous? Alors, il y avait manipulation. manipulation, instrumentalisation, infiltration. On a sans cesse posé ces trois questions avec Francesco. Et c'est des questions que nous ne sommes pas les premiers à poser. Elles se posent depuis 30 ans, 35 ans. Qui est derrière? Évidemment que les acteurs eux-mêmes, quelqu'un comme Prospero Gallinari, vous rionnez quand vous lui posez la question. Pour lui, il est hors de propos de reconnaître la moindre manipulation. D'autres repentis, parmi les brigades rouges ou ceux qui ont pratiqué la lutte armée, reconnaissent aujourd'hui qu'il y a eu peut-être, oui, vraiment, plus ou moins, voilà. Alors, et l'histoire est en cours, hein, l'histoire est en cours de travaux sur cette période. On a des indices, on a des réflexions, on a des calculs, on a des éléments, mais l'histoire n'est pas encore définitivement écrite. Le sera-t-elle un jour? Pas plus que le reste de l'histoire de notre passé. On ne sait pas demain quel passé nous aurons. En tout cas, voilà des observateurs engagés, très fins et très perspicaces, et qui aujourd'hui, comme Giorgio Bocca, font encore trembler leur pays à 80 ans. Giorgio Bocca, célèbre plume de la Repubblica, fait encore peur, notamment à Berlusconi, qui a peur de cet homme qui est dans son bureau, très âgé, mais l'esprit encore vif, alerte, acide, et qui évoque ces années sur lesquelles il a longuement travaillé et écrit.
Ils ont voulu le tuer, le Parti démocrate chrétien. Savait très bien que si Moro était libéré, il y aura un grand changement dans la démocratie, parce que lui avrebbe cercato di fare una politica diversa, di indipendenza verso gli americani maggiore.
Il aurait essayé de faire une politique différente s'il avait été libéré, et surtout il aurait essayé de faire une politique d'indépendance par rapport aux États-Unis.
La gestione del caso Moro è stata fatta dalla CIA personalmente, insomma.
La gestione del caso dell'enlèvement de Moro è stata fatta direttamente dalla CIA.
Non hanno neanche nascosto che c'era questo comitato dove c'erano tutti i generali della P2 o generali americani e agenti della CIA.
Et ils l'ont même pas caché, le comité de crise qui a été formé pour suivre l'enlèvement de Moro était rempli des généraux des services secrets italiens inscrits à la loge P2 et des généraux américains et des agents des services américains.
Qui ont décidé de la fermeté, c'est-à-dire qui ont décidé de la mort de Moro. La loge P2, on en parlera dans les prochaines émissions. Une autre analyse sur les manipulations, infiltrations derrière les brigades rouges. Analyse de Giuseppe De Lutis, professeur, spécialiste, conseiller auprès des tribunaux.
Anzitutto possiamo dire che le forze investigative lasciano sviluppare sia il fenomeno terroristico delle brigate rosse.
Alors, le premier élément de manipulation est laxisme quelque part, la complaisance, la marche qu'on laisse d'une part au développement des brigades rouges en tant qu'organisation clandestine armée et faisant des attentats terroristes, et d'autre part la marche qu'on laisse au mouvement dans le mouvement social, au groupe qui pratique la résistance la plus violente dans les affrontements de rue, dans les manifestations, etc.
Questo lassismo sarà presente per i 4 anni di maggiore violenza del terrorismo.
Cette sorte di bride laissée sous le coup de la violence d'extrême gauche durera les 4 années qui vont de 74, 75 à 79, et donc qui comprend aussi l'affaire Moro.
Donc on aurait pu les arrêter pendant ces 4 années.
Certainement.
Parce qu'il faut dire, on parle beaucoup des brigades rouges, mais pendant ces 4 années, il y a d'autres groupuscules qui, eux aussi, petit à petit, sautent le pas et procèdent à des attentats politiques.
Certo, nasce l'hôtel, nasce...
C'est effectivement la période de florescence de tous les sigles armés qui ont fait la, entre guillemets, la gloire des années de plomb. C'est-à-dire qu'il y aura la naissance de Prima Linea, la naissance des prolétariens armati per il comunismo, par exemple, de Battisti, la naissance de plein d'autres groupes. Il y aura jusqu'à 100 sigles de...
100 sigles. Et les cibles.
Tutti i magistrati che vengono uccisi sono sempre magistrati.
Les juges qui sont parmi les catégories les plus touchées, c'est souvent, presque toujours, des juges progressistes qui viennent de rangs de la gauche. Et il n'y a pas de juges d'extrême droite qui soient tués, il n'y a pas de juges même de droite qui soient vraiment tués.
Et gli obiettivi a giudicare delle loro
l'autre objectif stratégique est déclarer, c'est la révolution prolétarienne. Mais est-ce que vraiment on pouvait considérer à cette époque, en Italie, un pays dans le temps et à la fin des années 70, que cet objectif stratégique était crédible même pour ceux qui le déclaraient et le soutenaient comme objectif?
Alors comment réaliser qu'on s'est trompé? Comment comprendre et admettre qu'on a échoué? C'est évidemment le moment le plus difficile. Et c'est un moment qu'a vécu Barbara Balzerani, qui fut une brigadiste rouge, et qui nous a raconté et son parcours et sa vie ensuite, et sa vie aujourd'hui, et qui nous dit comment s'est passée la fin.
À partir de quand vous avez commencé les uns et les autres à comprendre que c'était un échec?
La data fatidica è stata il 1982. Lì noi in quell'anno sequestrammo un generale americano.
La data fatidica, on peut considérer comme telle, è 1982. Cette année-là, nous on avait enlevé le général de l'OTAN, Dozier, qui était un général qui avait participé à la guerre du Vietnam, qui avait tellement chauffé nos jeunes cœurs 15 ans avant.
Noi sequestrammo questo generale e la polizia ci scoprì. Entrò nella base dove veniva tenuto, i compagni che lo tenevano furono tutti arrestati, lui fu liberato e...
Donc nous on a enlevé ce général de l'OTAN, Dozier. Mais on a été tout de suite découvert. Et la base où il était gardé a été repérée. Et la police a intervenu. Et le général a été libéré. Et les camarades qui le gardaient ont tous été capturés. Alors, ils ont été tous torturés, ils ont tous parlé. Ça, ce serait pas étonnant. Et tout le monde parle sur la torture. Mais certains, et un bon nombre, n'ont pas seulement parlé, ils ont aussi trahi. Ils ont donné des noms. Ça a été la première, entre guillemets, trahison massive qui s'est transformée en avalanche.
Questo ha significato la presa d'atto di una grossa crisi politica. Altrimenti non si spiega chi era tuo fratello fino al giorno prima.
Et donc pour nous ça a été le signe d'une profonde crise politique, c'est-à-dire que la cohésion qui était la règle jusqu'à avant, les gens qui te considéraient comme ton frère jusqu'à avant, deviennent tes ennemis. Et donc ça pour nous ça a été le signe net et clair d'une grosse crise politique, et ça a été quelque part le début de la fin, et la défaite est venue à partir de cette crise politique, beaucoup plus qu'à partir de nos défaites militaires au sens strict.
Io ho continuato fino all'85, sono stata arrestata nel 1985.
Alors moi j'ai été arrêté en 1985.
Mais vous rêviez de quoi au juste? De prendre le pouvoir?
Sì. Credo che siamo stati gli ultimi figli dell'utopia rivoluzionaria, delle categorie rivoluzionarie novecentesche, della conquista violenta del potere.
Oui, tout à fait. Moi, je crois qu'on a été les derniers enfants des catégories révolutionnaires du XXe siècle qui prévoyaient la prise de pouvoir par les armes. Et nous, on a été la dernière génération qui l'a essayé, qui l'a cru.
Et qui a perdu.
Et qui a perdu.
Qui a perdu.
Il ministre italien, per anni, gli aveva detto, Siete bravi che facciamo la rivoluzione.
Il Partito Comunista Italiano leur avait dit pendant des années, attendez, attendez, soyez gentils, un jour on va faire la révolution. Et les années passées, la révolution ne venait pas, ils ont décidé d'essayer de la faire tout seul.
Ma per tutti, anche per Curcio, anche per tutto il gruppo fondatore. Pensava non solo che erano.
Pour tout le groupe qui a fondé le Brigade Rouge, dont Prosper Gallien faisait partie, c'était pour eux, le vrai Parti communiste, c'était eux. Et même l'autre illusion, l'autre mythe qu'ils avaient, c'était qu'ils étaient ceux qui étaient en train de continuer, de poursuivre la guerre partisane.
Voilà, c'est un des grands moteurs de cette histoire sanglante, terrible. C'est la déception de toute une Italie, de tout un peuple, de toute une jeunesse dans ces années 60 que celle face à l'impuissance et le renoncement du Parti communiste italien à issue de la résistance, issue du combat des partisans, de changer le monde. Parmi ces partisans, il y avait Giorgio Bocca, journaliste, aujourd'hui 80 ans, qui parle, qui sait de quoi lui aussi il parle, et qui parle d'un homme que nous allons rencontrer, qui a été président de l'Italie, président du Conseil, président de la République, président du Conseil, aujourd'hui sénateur à vie, qui, à l'époque de l'enlèvement et l'exécution d'Aldo Moro, était président du Conseil, Giorgio Bocca. On a rencontré l'ancien président Cossiga. Lui, il dit que c'était une guerre civile.
C'est moins incroyable que vit en Italie, pour qu'il ait été président de la République. C'est normal, non? Qu'un fou était président de la République. Complètement faux. On sait très bien qu'il a manié tous ses uniformes militaires. Cagliari en Sardaigne, on le voit dans la nuit, habillé comme un amiral. Mais aussi dans les parades militaires, il était toujours.
Ah bon, il adore les uniformes militaires.
Si, tout le monde le sait, mais.
C'est sa pathologie à lui.
Il fait qu'il y a une démonstration de ce que veut dire le pouvoir.
C'est une démonstration de ce que ça signifie le pouvoir.
Parce que lui, essendo stato presidente della Repubblica.
Étant président de la République, il jouit encore de l'impunité, il peut faire tout ce qu'il veut et personne ne se permet de lui mettre des coups de pied au cul.
Uomini anche cattivi, quelli che odia, è durissimo.
Mais en même temps, c'est un homme qui peut être très méchant avec ceux qui l'haïssent, il est très très dur.
Par exemple?
Persecutorio. Per esempio, nel caso soffre.
Alors on est interrompu par un coup de téléphone, mais voilà des propos acerbes et qui rappellent qu'on peut très bien être vieux et libre, et même que la vieillesse, le grand âge, donne beaucoup beaucoup de liberté, une liberté dont abuse Giorgio Bocca, ce grand journaliste, et sur laquelle ne mégote pas, ne rechigne pas Francesco Cossiga, donc sénateur à vie et ancien président de la République italienne.
La résistance est stata tre cose.
La résistance a été trois choses.
Una guerre patriottica contro l'occupazione allemande, una guerra civile contro il fascismo e nella testa di molti una guerra di classe.
E dalla tête de beaucoup une guerre de classe.
In alcuni paesi d'Europa vi sono state tutte e tre resistenze.
Dans certains pays d'Europe il y a eu les trois types de résistance.
Si è compiuta la guerra di classe in senso politico con l'instaurazione del regime comunista.
E in certains pays d'Europe, l'accomplissement du volet de classe de cette guerre s'est fait avec l'instauration del regime comunista.
Stalin questo in Italia non lo poteva permettere.
Ça, Stalin ne le pouvait pas le permettre en Italie.
Perché secondo i patti di Yalta, l'Italia era nella sfera occidentale.
Parce que selon la division du monde de Yalta, l'Italie était dans la zone d'influence occidentale. Et ça a été perçu par une partie du Parti communiste et notamment des jeunes qui étaient élevés dans le mythe de la révolution et du Parti communiste.
Et de la résistance
comme une résistance trahie et non accomplie.
Questa è un'altra delle forze morali del terrorismo, della sovversione di sinistra. Infatti io non parlo di terrorismo.
Et ça, c'est une autre des origines des forces morales, de celles que j'appelle plus volontiers la subversion de gauche, parce que j'aime pas l'appeler le terrorisme.
Il terrorismo sono è un metodo di lotta.
Il terrorismo è che un metodo di lotta.
Perché il terrorismo è la guerra dei poveri contro i ricchi.
Parce que le terrorisme c'est la guerre des pauvres contre les riches.
Et la guerre des deboli contre les forti.
Et la guerre des faibles contre les forts.
Pour autant, est-ce que vous voyez les brigades rouges? Est-ce que vous voyez ce mouvement comme un mouvement de résistance?
Era un movimento di resistenza ad una società che loro vedevano frutto dell'abdicazione del Partito Comunista e del compromesso tra il proletariato e il capitalismo.
C'était une forme de résistance contre une société qui eux voyaient comme le fruit de l'abdication du Parti Communiste
à la Révolution.
Et cette société n'était plus que le compromis entre l'avant-garde du prolétariat et l'avant-garde du capitalisme moderne. Et notamment, c'était en Italie représenté surtout par Agnelli, pour ce qui est du capitalisme moderne, et les projets de réforme les plus avancés, comme le statut des travailleurs, pour ce qui était de la gauche institutionnelle.
Quand vous dites que les brigades rouges ont permis à la société bourgeoise de se renforcer, de repartir, vous pensez au pouvoir d'aujourd'hui?
Je pense que c'est encore une
Giorgio Bocca.
Toute la propagande que Berlusconi a fait dans ces années anticommunistes, c'est une grande partie basée sur la peur que les brigades rouges ont fait à la bourgeoisie italienne.
Oui, c'est ça. Les brigades rouges lui ont donné une rente de situation un peu.
Je pense que la bourgeoisie italienne, comme je pense aussi celle française, a cette spécialité qui ne se contente pas de vaincre. Elle doit faire payer la peur qu'elle a eue dans ces années. On ne comprend pas qu'il y a millions d'Italiens qui ont peur d'un parti communiste qui n'existe pas. Les communistes italiens font une politique social-démocrate. On ne comprend pas cette peur du communisme, cette vengeance. Parce que la patrie, pour les bourgeois italiens, et je pense aussi pour les Français, c'est leur classe. La guerre partisane est très peu bourgeois, en fait. Mais maintenant, il y a en Italie ce retour à un coutume fasciste, drapeau, Italie, guerre, les militaires, il y a toute cette odeur de fascisme qui est retournée.
Merci à Giorgio Bocca, merci Eri De Luca, Adriano Soffri, Giorgio Galli, Giuseppe De Lutis, Barbara Balzerani, Francesco Cossiga et Prospero Gallinari. Reportage Francesco Giorgini, Coyen Guyen, Yann Chouquet, Guy Vanquil, Thierry Schaff, Claire Otter, Pascal E. Pascariello et Christophe Imbert. C'est l'équipe de la Bassie. J'y suis. La technique aujourd'hui, Patrick Henry et Benjamin Lagatinet. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Je vous rappelle le numéro du répondeur de la Bassie. J'y suis. 01 56 40 37 37, et le mail daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.